Bonjour et bienvenue au module 2 du chapitre sur les notions de base sur l'alimentation santé, qui fait partie du Master Course Nutrition dans le diabète. Dans ce module, je vais parler des différents groupes ou familles d'aliments et leurs caractéristiques nutritionnelles. Un groupe d'aliments comprend des aliments qui partagent des propriétés nutritionnelles ou des classifications biologiques similaires. Donc, on va regrouper dans un groupe alimentaire des aliments qui sont semblables. Les guides alimentaires, de manière générale, catégorisent habituellement les aliments en groupe et émettent des recommandations par rapport aux portions journalières de chaque groupe pour une alimentation saine. Car les recommandations alimentaires vont rarement viser des aliments uniquement un aliment en particulier, mais bien un groupe alimentaire où les différents aliments sont apparentés de point de vue nutritionnel. Les différents groupes ou familles d'aliments qu'on a répertoriés sont les légumes, les fruits, les viandes, poissons, œufs ou œufs et autres sources de protéines, les produits céréaliers et autres sources de glucides, les produits laitiers, les graisses et les huiles et les sucres. Les classifications sont nombreuses. Donc, les regroupements en groupes alimentaires dépendent, c'est un choix en fait que font souvent soit les chercheurs ou les nutritionnistes ou bien encore les gouvernements lorsqu'il s'agit de recommandations alimentaires ou bien les organismes qui en fournissent. Par exemple, au Canada, il y a quatre groupes alimentaires. Ceux-ci sont les légumes et les fruits. Les viandes et substituts, les produits laitiers et les produits céréaliers. Aux États-Unis, ils ont choisi de regrouper les aliments en cinq groupes. Au Bénin aussi, il y a cinq groupes pour les aliments. Certaines classifications qui sont plus récentes ne tiennent pas compte des nutriments, mais plutôt de la transformation alimentaire, comme la classification Nova qui nous provient du Brésil. Cette classification, elle, catégorise les aliments par leur degré de transformation. Est-ce que c'est un aliment qui est peu transformé ou naturel? Est-ce que c'est un ingrédient culinaire? Est-ce que c'est un aliment transformé, comme par exemple une boîte de conserve qui contient l'aliment entier, comme une boîte de pois chiches, mettons, ou de sardines? Ou bien est-ce que c'est un aliment qui est ultra transformé, par exemple une reformulation qui va sortir un aliment qui est très transformé, par exemple les céréales de petit déjeuner qui sont sucrées, etc., ou d'autres aliments de ce groupe. Pour commencer, je vais parler donc des légumes. Les légumes se réfèrent aux différentes parties des plantes maraîchères que nous avons l'habitude de consommer. On y inclut par exemple les différentes feuilles vertes, les tomates, les aubergines, les poivrons et les piments, les concombres, les laitues, les choux, etc. La tendance récente est d'exclure les tubercules, comme les pommes de terre, de ce groupe d'aliments, à cause de la haute teneur en amidon de ces derniers, les apparentant davantage aux produits céréaliers. Donc, parce que de point de vue nutritionnel, ce qu'ils offrent, ces aliments-là, est plus proche des céréales que des légumes. Toutefois, ceci n'est pas encore le cas dans plusieurs guides alimentaires. Par exemple, le guide alimentaire du Canada inclut les pommes de terre dans les légumes et les fruits. Mais bref, la tendance, comme j'ai dit, c'est d'exclure ces tubercules-là. Les légumes sont une bonne source de glucides et les glucides incluent les fibres alimentaires. Je vais expliquer dans un prochain module les différentes sortes de glucides et comment les fibres alimentaires sont incluses dans ce groupe. Les légumes sont aussi source de composés phytochimiques, de minéraux et de vitamines. Et contrairement aux fruits, les légumes sont, eux, peu sucrés. Donc, leur consommation en quantité importante, qu'ils soient cuits ou crus, est encouragée parce que les légumes peuvent très bien servir de base à notre alimentation. Voici certains exemples de légumes qui sont disponibles dans plusieurs pays d'Afrique et en Haïti aussi. On peut voir le gombo, les carottes, les tomates, etc. Un autre groupe alimentaire, ce sont les fruits. Dans le langage courant, les fruits désignent des parties de plantes souvent charnues et sucrées, consommées après les repas, en collation, transformées en jus ou consommées en dessert. Il y a souvent certains certaines discussions byzantines sur ce que sont les fruits réellement, est-ce qu'une tomate est un fruit, etc. Mais de point de vue nutritionnel, ce qui nous importe, c'est le profil nutritionnel d'un aliment. Donc les fruits, on va les regrouper par leur utilité dans l'alimentation et comment on les considère de point de vue nutritionnel et plus précisément leur teneur en sucre. Par exemple, les fruits sont de manière générale plus sucrés que les légumes. Des exemples incluent les mangues, les melons, les pastèques, les bananes, les goyaves, les papayes, les raisins, les oranges, les pommes. Par exemple, les bananes, c'est un bon exemple, c'est un fruit. Mais quand on va penser aux groupes alimentaires, le plantain qui ressemble énormément à la banane, on ne va pas le considérer un fruit, on va plus le considérer avec le groupe alimentaire qui va offrir les glucides comme les tubercules. Donc c'est une question de nomenclature nutritionnelle et non pas nécessairement taxonomique ou agricole. Et donc on va éviter toute cette discussion stérile par rapport à la classification de certains fruits, légumes, etc., qui parfois amusent les gens. Et donc pour nous, les fruits sont une bonne source de glucides, incluant les fibres, de composés phytochimiques, de minéraux et de vitamines. Ils sont une source de sucre simple, comme le fructose, dont le nom fructose vient de fruit. Et dans le jus de fruits, le sucre se retrouve à l'état de sucre libre, car il n'est pas enchâssé, si vous voulez, emprisonné dans la matrice de fibres, comme dans le fruit régulier. Donc, les jus contribuent donc à une élévation rapide du taux de sucre sanguin. Donc, de point de vue nutritionnel, les jus ne doivent pas être considérés comme équivalents aux fruits entiers. Pendant très longtemps, en nutrition, on a considéré les deux comme équivalents, malheureusement, et ceci est resté dans les mœurs ou bien dans les habitudes en général. Et on a souvent dit, bon, le jus c'est bon, il faut en encourager la consommation. Mais on se rend compte donc que les jus, même les jus de fruits frais, sont une bonne source de sucre libre et donc il ne faut pas en abuser. Alors que les fruits, eux, le sucre, bien que disponible, il est disponible de façon plus lente, donc il va moins rapidement élever le sucre sanguin. Aussi, on va consommer beaucoup plus de fruits en jus que de fruits. Donc une orange, on va la consommer et peut-être en être satisfait, alors que pour boire un verre de jus d'orange, il faut plusieurs oranges, 3 ou 4 oranges. Donc on va avoir une plus grande quantité de sucre quand elle est consommée en forme de jus. Voici certains fruits qui sont disponibles dans les pays d'Afrique, donc la banane, la mangue, la papaye, etc. Maintenant pour les céréales, les tubercules et les racines. Ce groupe d'aliments est source d'énergie et de glucides complexes. Ces produits forment souvent la base de l'alimentation qu'on agrémente avec des aliments des autres groupes dans plusieurs régimes alimentaires. Par exemple, en Asie, il est courant de consommer du riz avec des sauces. Le pain de blé ou les pommes de terre sont courants en Europe. Le pain est très courant au Moyen-Orient. Le maïs sous différentes formes est très commun en Amérique latine. On va faire des tortillas, des galettes, etc. en Amérique latine et on va agrémenter ceci avec des sauces ou des aliments solides. Les aliments de ce groupe qui sont courants en Afrique sont le mil, le sorgho, le manioc, la patate douce et même les plantains, qui sont un fruit, comme j'ai dit, mais qu'on va considérer ici dans ce groupe, et donc qui vont servir de base à l'alimentation. Les pâtes alimentaires aussi sont dans ce groupe-là, donc les spaghettis ou macaroni et le pain, mais ce sont des produits transformés qui sont faits à partir de blé et font partie de ce groupe. Les céréales de petit déjeuner sont aussi dans ce groupe, mais attention, elles sont souvent sucrées ou salées, ces céréales-là. Elles ne sont pas nécessairement toujours à favoriser pour un petit déjeuner sain. Pour les céréales, donc, il est toujours recommandé de consommer la version complète du grain, car celle-ci contient la fibre qui, d'abord, pour le glucide, va aider à ralentir son absorption et donc son impact sur l'élévation du sucre sanguin. Voici quelques céréales, tubercules et racines que vous connaissez. Le pain, les pâtes, le maïs, le riz, etc. Voici aussi le manioc qui peut être utilisé de différentes manières. La patate douce, le taro, l'igname. Donc voici tout ça, ce sont des exemples de ce groupe de céréales, tubercules et racines qui sert comme base pour l'alimentation. Souvent dans plusieurs cuisines traditionnelles à travers le monde. L'autre groupe, les viandes, volailles, poissons et autres sources de protéines. Ce groupe d'aliments est source de protéines, de fer et d'autres sels minéraux. Il est important pour la croissance des enfants et la constitution des muscles. Il contient les viandes de bœuf, de mouton, de chèvre ou autres mammifères, les volailles, les poissons et fruits de mer, incluant les poissons séchés. Il y a aussi des sources de protéines végétales qui comprennent les haricots et autres légumineuses comme les fèves, les pois chiches, etc. Celles-ci, donc les légumineuses, constituent une bonne source de protéines. Elles sont peu coûteuses. Leur production est moins exigeante du point de vue environnemental, donc elles causent moins de pollution à produire. Donc si on compare les légumineuses au bœuf, il n'y a pas à comparer, car la production du dernier, donc du bœuf, occasionne des gaz à effet de serre et une transformation au niveau environnemental importante, surtout quand c'est une production intensive. Aussi, ces légumes sont une bonne source de fibres alimentaires. Attention, il y a aussi les viandes en boîte qui existent et qui font partie de ce groupe alimentaire, mais souvent les viandes en boîte sont transformées, sont très salées pour les préserver, comme les saucisses ou la mortadelle, et aussi sont souvent riches en gras. Donc on va favoriser les parties grasses de l'animal, on va saler ces viandes-là pour en faire des saucisses, des hot dogs ou de la mortadelle et les vendre à la population. Voici certains exemples donc de ces aliments qui appartiennent au groupe des viandes, volailles, poissons et autres sources de protéines. Donc, ce groupe alimentaire contient des produits d'origine animale, mais aussi certains produits d'origine végétale, mais qui sont une bonne source de protéines. Les produits laitiers. Les produits laitiers sont une bonne source de calcium, de protéines et de gras. Ce groupe comprend le lait, le yaourt et autres produits fermentés à base de lait, ainsi que les fromages. Plusieurs groupes culturels, et ça c'est important à s'en souvenir, plusieurs groupes à travers le monde, que ce soit en Afrique, en Asie ou autres, ne consomment pas traditionnellement de produits laitiers. Ceux-ci peuvent être remplacés dans ces cas-là par des aliments qui sont riches en calcium, comme les poissons avec arêtes ou les crustacés avec carapace séchée, ou bien encore les poissons en boîte, comme les sardines, qui sont consommés avec les arêtes. Ceux-ci donc sont une bonne source de calcium. Et pousser les produits laitiers sur des personnes qui ne les consomment pas habituellement serait probablement inutile ou ça contribuerait de façon minimale à leur alimentation si la culture, de façon culturelle, ce n'est pas accepté. Il faut aussi se rendre compte que sur le marché, nous avons de plus en plus de produits laitiers sucrés. Donc nous avons des yaourts sucrés, des petits fromages en pot, etc. qui servent de dessert. Bien qu'ils soient une bonne source de calcium, ces aliments ne sont pas à encourager car ils sont une bonne source de sucre. Et le sucre, particulièrement pour les diabétiques, ne doit pas être encouragé. Donc sa consommation doit être plutôt contrôlée. Donc voici les produits laitiers, certaines images que vous pouvez peut-être reconnaître. J'ai mis l'eau dans les aliments parce qu'il faut insister sur l'importance de l'eau. Les boissons sucrées, qu'elles soient naturelles, par exemple le jus de fruits sans sucre ajouté, ou non, comme les boissons gazeuses, les boissons à saveur de fruits, les boissons pour sportifs ou les boissons énergisantes, sont devenues tellement présentes dans l'environnement qu'il est maintenant important de rappeler que la meilleure manière de se désaltérer demeure l'eau. car les jus ou les simili-jus, les boissons à base de jus ou à base de poudre, de sucre, etc., sont une source importante de sucres libres qui sont aisément assimilables. Donc, il est recommandé de boire de l'eau. Il faut s'assurer que l'eau est saine, qu'elle est salubre, pour étancher sa soif, et aussi en augmenter la consommation lors de grosses chaleurs et lors de l'activité physique intense. Et évitez donc les boissons qui sont à la droite de votre écran, les boissons alcoolisées aussi, donc les boissons sucrées gazeuses ou pas, et favorisez donc la consommation d'eau. Comme j'ai dit, il faut s'assurer que l'eau est saine. On peut bouillir l'eau si on a peur qu'elle ne soit pas de bonne qualité, mais l'eau demeure pour tout le monde la meilleure façon de se désaltérer. Pour la cuisson, là je vais parler des huiles et des gras. Il est recommandé d'utiliser les huiles végétales ou les gras animaliers en petite quantité. Nous, on ne se cache pas, les huiles et les gras sont importants. Ils donnent du goût aux aliments. Il est important de les inclure, mais il est important de les inclure de manière raisonnée et de les inclure en petite quantité. Car ces huiles et ces gras sont une source élevée de calories. Il y a 9 calories par gramme d'huile ou de gras. Et donc, il est important de les consommer avec parcimonie et aussi de préférer les matières grasses ou les huiles végétales aux matières grasses d'origine animale qui contiennent plus d'acides gras saturés. Il faut donc limiter la quantité d'huile dans la cuisson et ne pas dépasser 2 à 3 cuillerées à soupe par adulte par jour d'huile végétale. Donc peut-être un travail qui doit se faire au niveau de la préparation alimentaire, un travail d'éducation, un travail de changement des habitudes, afin qu'on ne s'attende pas toujours à ce que les sauces soient baignées d'huile, par exemple, car trop, ce n'est pas bon pour la santé. Les gras transformés, et ça c'est un grand problème à travers le monde, mais particulièrement dans les pays à faible et moyen revenu, c'est cette commercialisation de ce qu'on appelle les graisses végétales. Donc, ce sont ces graisses qui sont à base d'huile, mais qui sont hydrogénées pour faire une graisse qui est plus solide à la température de la pièce. Et malheureusement, ces graisses végétales qui sont très populaires sont très riches en gras trans. Et les gras trans, on va le voir plus tard, sont problématiques pour la santé, car ils sont associés, ces gras-là, avec une augmentation des risques de maladies cardiovasculaires. Certaines huiles traditionnelles, comme l'huile de palme rouge, qui est une huile traditionnelle d'Afrique, peut avoir des effets bénéfiques supplémentaires. Par exemple, l'huile de palme rouge, du moment qu'elle est rouge et non blanchie, elle est une bonne source de vitamine A. Donc, voici quelques illustrations, de gras et de friture. Et on peut s'imaginer donc que la friture à grande huile, la grande friture, est à minimiser dans l'alimentation. Dans une alimentation santé, on va favoriser les aliments qui sont préparés avec peu d'huile. Donc un peu d'huile pour préparer les sauces ou les viandes ou les légumineuses. Et donc minimiser la consommation de ces gras qui sont inclus ou qui sont très présents dans la grosse friture. Il y a aussi le groupe des autres aliments. Ce sont les aliments qu'on ne retrouve pas dans les recommandations alimentaires, car ils sont considérés comme superflus. Ils ne sont pas essentiels, donc, pour une bonne alimentation et qui peuvent poser des risques. Les produits alimentaires salés, comme les chips, par exemple, ou sucrés, comme les friandises, les bonbons et les autres, sont devenus tellement présents, monnaie courante, à cause des transformations dans le système alimentaire et l'industrialisation de l'offre. Une alimentation saine est basée sur les produits naturels qui sont peu transformés, donc sur les produits que je viens de citer, qui font partie des groupes alimentaires que je viens de mentionner. Et donc, il faut minimiser le plus possible ces aliments qui sont les autres aliments, qui sont riches en énergie et qui comblent peu les besoins en nutriments. Le problème, c'est que certains de ces aliments sont aussi une marque d'hospitalité. On va faire plaisir aux enfants en leur offrant des bonbons, des friandises. On va recevoir des amis avec des gâteaux. On va fêter les fêtes d'anniversaire avec un gâteau ou autre. Et donc, il est important de pouvoir dissocier donc, le rôle culturel qu'ont eu ces aliments-là avec leur qualité nutritionnelle et se rappeler que ce ne sont pas des aliments essentiels. Et peut-être pouvoir les transformer dans l'hospitalité, offrir des fruits plutôt que que ces aliments-là, serait peut-être une chose à explorer. Il y a aussi des aliments qui sont riches en sel. Ceux-là aussi sont souvent des collations, donc souvent des snacks, ce qu'on appelle mais aussi sont certains aliments comme les charcuteries, les hot dogs, certains pains sont très riches en sel, donc il faut faire attention à quel pain choisir. Les cubes qu'on utilise pour la cuisson, sans les nommer, on les connaît tous, sont aussi très très riches en sel. Peut-être devrions-nous reprendre les habitudes traditionnelles ancestrales de favoriser le goût dans les aliments avec les épices traditionnelles plutôt que l'usage de ces cubes qui sont très riches en sel. Donc ceci conclut ce deuxième module de mon chapitre. Je vous donne rendez-vous pour le prochain module. Merci pour votre attention.